le 6-9 de l'été sur France Inter.
Une soirée de fête, un peu trop d'alcool, et le lendemain matin, presque pas de souvenirs, si ce n'est ceux d'un homme qui profite, qui abuse d'une femme. Cela fait partie des histoires de viol que vous racontez dans votre documentaire, Laetitia Onona. Bonjour.
Bonjour.
Un documentaire à voir en ce moment sur arte.fr, il sera diffusé dans quelques jours à la télé. Jamais, dans votre film, vous ne montrez les visages des victimes que vous suivez. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, ça me semble assez évident en termes de délicatesse. Je pense que j'ai vu des victimes qui venaient de subir un viol. C'était peut-être pas nécessaire de leur demander en plus d'apparaître à l'écran. Pour la plupart, elles ne savaient pas encore si elles en informeraient leur famille, leurs proches. Je voyais pas trop l'intérêt, en fait, de rajouter ça. Je trouvais que c'était déjà très précieux qu'on accepte ma présence au moment des auditions, des examens médico-judiciaires, etc. C'était peut-être pas la peine non plus d'en rajouter.
Et elles ont honte ?
Bien sûr, elles ont honte. Elles ont honte. Elles ont honte et elles vont avoir honte longtemps. Parce que c'est ce que le regard des autres leur renvoie, c'est ce que la société renvoie, et c'est quelque chose qui va leur coller à la peau, ça, la culpabilité, pendant très longtemps dans leur vie.
C'est quelque chose qu'il faut comprendre dès le début de votre documentaire, que vous mettez bien en valeur, c'est l'inversion du sentiment de culpabilité. C'est le seul crime où, en fait, celui qui commet le crime ne voit pas le problème, et la victime, elle, est coupable, et coupable pour très longtemps.
Absolument, et ça, l'avocate qui est dans mon film et qui prépare donc sa cliente au procès d'assises qu'elles attendent depuis 4 ans, elle lui dit très bien, elle lui dit c'est la seule infraction criminelle en France où on va avoir ce sentiment très prégnant de culpabilité sur la victime, et une inversion, parce que l'auteur ne se sent pas coupable, pourquoi ? Parce que la plupart du temps, il ne sait même pas qu'il a commis un viol. Il est là le problème. Enfin, ça, c'est un des gros problèmes. Et donc, on a cette inversion qui est typique du viol. Évidemment, quelqu'un qui va se faire braquer sa voiture de luxe dans une rue malfamée, on ne va jamais lui demander « Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faisiez dans cette rue à cette heure-ci à provoquer avec votre voiture de luxe ?» Jamais. Il n'y a que le viol sur lequel on va questionner cette co-responsabilité de la victime.
Et il y a cette séquence avec une médecin qui reçoit une victime qui est très importante. Et ses paroles sont très précieuses parce qu'elle va essayer de convaincre la victime que ce n'est pas parce qu'elle a trop bu qu'elle s'est fait violer. Ce n'est pas de sa faute en fait.
Absolument. Ça, c'était très important pour moi de le montrer parce que aux unités médico-judiciaires, j'ai vu beaucoup de victimes alcoolisées et toutes se questionnaient et même presque elles souhaitaient qu'on leur dise qu'il y avait de la drogue dans leur verre. Et aux unités médico-judiciaires, on voit bien que sur les victimes de viol, il y a très peu de drogue du viol. En tout cas sur les femmes, il y en a sur les hommes, plus sur les homosexuels notamment victimes de viol. Mais sur les femmes, c'est souvent l'alcool et ça, faut le faire comprendre. Et ce qu'il faut faire comprendre, c'est que clairement, on a le droit de picoler, on a le droit d'être
vraiment... Le médecin le dit, hein.
Elle lui dit, on a le droit de picoler en soirée et heureusement, encore, la victime n'aura jamais rien fait pour provoquer un viol. L'auteur, lui, peut ne pas le commettre. Donc c'est toujours l'auteur qui est responsable. Normalement, quand on voit quelqu'un qui est mal, qui est malade, qui est vulnérable, on va le mettre en sécurité et on va pas profiter de cet état de vulnérabilité. Et donc voilà, et je trouvais ça très important de mettre en avant cette déculpabilisation de cette médecin des UMJ.
D'où le titre aussi de votre documentaire, ça s'appelle « Elle l'a bien cherché ».
Elle l'a bien cherché parce que malheureusement, très malheureusement, encore en 2019, c'est ce qu'une grande partie de la société pense des femmes majeures victimes de viol. J'insiste sur le côté femme, parce qu'évidemment j'ai vu des victimes hommes aux unités médico-judiciaires dans les parcours. Sauf qu'un homme, on ne lui posera jamais la question de ce qu'il a fait pour provoquer un viol. Jamais.
Tout le début, on voit bien aussi dans votre documentaire que c'est à la victime de convaincre les policiers de son agression. Ça commence par une audition d'une jeune femme et on voit le scepticisme sur le visage. On voit en fait que le visage du policier, on voit son scepticisme et puis il y a cette phrase à la fin, il dit « j'y crois pas trop, je sais pas ». C'est à la victime de convaincre en fait.
Le doute est permanent. Tout le temps, d'un bout à l'autre de la chaîne judiciaire, il va y avoir ce doute. Il commence par les policiers. Ils sont obligés aussi de balayer tout le spectre des possibilités.
Oui, il peut y avoir des mensonges aussi, c'est une réalité.
Il peut, alors c'est très rare et on les met très souvent en avant, malheureusement, au détriment des vraies victimes qui sont la majorité et ça, on ne cessera jamais de le répéter. Mais ils ont 48 heures maximum de garde à vue pour démêler le vrai du faux. Donc il faut absolument tout montrer. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de montrer qu'effectivement, ce policier au départ doute, mais ensuite, il est capable de changer d'avis.
Il change d'avis, effectivement.
Et de s'adoucir avec la victime, mais au contraire, de passer plutôt inavouané aux mises en cause. Voilà. Et pour une autre affaire, au contraire, ils avaient des certitudes de départ sur les mises en cause et ça va s'inverser. Donc, c'était aussi important de montrer cette ouverture d'esprit et ce travail. Ils travaillent comme des acharnés. Les journées d'audition, c'était du délire. C'était du 9h, 22h, 23h. Enfin, on ne peut pas les taxer de paresse par rapport à ça. Ils sont obligés de tout balayer.
Il y a quelques mois, il y a plusieurs centaines de femmes qui ont dénoncé l'accueil déplorable fait aux victimes dans les commissariats. Il y avait ce mot-clé, hein, paye ta plainte. Est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits depuis ? C'est encore trop tôt pour le dire.
C'est encore un petit peu tôt. Par contre, il y a vraiment un effort qui est fait vers la formation de la police et de la gendarmerie, qu'il n'y avait pas avant. En formation initiale, il y en a un peu. C'est pas suffisant. Et là, c'est en formation continue sur la base de volontariat. Bon, donc on peut se dire que c'est quand même un peu léger. Mais déjà, il y a un effort. Après, on peut toujours questionner et la quantité et la qualité des formations reçues. Clairement, là, MeToo, tout ça a absolument changé le rapport qu'on a à l'écoute de cette parole. C'est pas tant que la parole s'est libérée, c'est qu'on essaye d'apprendre à mieux la recevoir.
Alors justement, cette vague MeToo, on pourrait se dire que la parole s'est libérée, qu'on écoute mieux. Il y a quand même cette enquête Ipsos hein, qui vient de paraître sur les Français et les représentations sur le viol et les violences sexuelles. La précédente avait été faite il y a 4 ans, en 2015. Et en fait, les choses n'ont pas beaucoup changé hein, selon cette enquête Ipsos. Par exemple, pour la moitié des personnes interrogées, une fellation forcée, c'est pas un viol.
Eh bien oui. Ben voilà. Et pour 42% des Français, une victime qui a une attitude provocante en public atténue la responsabilité du violeur. On en est encore là, c'est la société dans son ensemble qui est questionnée, en tout cas dans mon documentaire, et cette enquête vient exactement confirmer ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un décalage flagrant entre ce que les gens attendent d'un viol. Pour tout le monde c'est grave, ça c'est sûr, mais pour tout le monde c'est un inconnu dans la rue avec une arme sous la menace, avec beaucoup de violence physique. 90%, 91% des viols sont commis par quelqu'un qu'on connaît, dans le cercle le plus proche.
Dont on ne se méfie pas.
Dont on ne se méfie pas. Il y a rarement de violence physique, même besoin de violence physique. Et donc effectivement, il y a cette espèce de décalage énorme entre ce que la société attend et entre ce qu'est le vrai visage du viol. Donc du coup, ça laisse la porte ouverte à tous ces stéréotypes. Il faut déconstruire énormément de choses, et notamment sur la place de la femme dans l'espace public aussi, le droit de boire, le droit de sortir, le droit de s'habiller comme on veut. Absolument tout ça.
Et dans cette enquête, on apprend aussi qu'un Français sur 6 pense qu'une femme peut avoir du plaisir à être forcée. Et on apprend aussi que le mot viol fait partie des recherches les plus demandées sur les sites porno. C'est encore un fantasme.
C'est peut-être un fantasme. C'est surtout, moi, ce que j'entends, c'est un manque cruel d'éducation. En fait, je crois, tout simplement, de la société tout entière et depuis la tendre enfance, hein, j'ai envie de dire. Le consentement... tout ça, si on n'apprend pas ça, comment attendre aussi de la société qu'elle comprenne voilà, dans ces rapports entre hommes et femmes, ce qui doit se jouer. Donc il y a un manque cruel d'éducation, c'est absolument flagrant.
Votre film, il montre toute la chaîne, le parcours du combattant, du dépôt de la plainte jusqu'au jugement. On estime aujourd'hui qu'il y a 200 000 viols chaque année en France. On enregistre seulement 16 000 plaintes à peu près, ça fait environ 10%. Et sur les 16 000 plaintes, il n'y en a qu'encore 10% qui vont aller aux assises. Donc seulement 1% des viols vont aux assises, en fait.
10% vont aux assises et 1% vont obtenir une condamnation, en fait. C'est ça. La pyramide des chiffres, elle est absolument vertigineuse, hein, c'est clair. Et encore, on est sur du déclaratif. Quand je dis, alors c'est même 252 000 exactement le chiffre, c'est-à-dire qu'il prend les 98 000 victimes majeures, et auxquelles faut rajouter les mineurs, qui sont 154 000, qui sont encore plus nombreuses. C'est énorme. Et on est encore en deçà de la réalité, puisqu'on est sur du déclaratif. Et donc, en gros, ça donne à peu près une victime sur 12 qui va finalement pousser la porte d'un commissariat, évidemment, qui a peur de ne pas être cru, qui est encore en état de choc, etc. Et au final, 3/4 des plaintes vont être classées sans suite. Et ça, c'est évidemment énorme, parce que c'est une violence inouïe pour les victimes.
Et votre film se termine par cette condamnation d'un violeur, condamné à 5 ans de prison, dont seulement un enferme, une année qu'il va en fait exécuter chez lui avec un bracelet électronique, et vous dites à 3 rues du domicile de sa victime. C'est glaçant.
C'est glaçant, la victime l'a croisé sur le terrain de pétanque à côté, en train de jouer à la pétanque avec son bracelet électronique au pied.
Donc il y a encore beaucoup à faire.
Absolument.
Elle l'a bien cherché, votre documentaire, Laetitia Onona. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro. C'est à voir dès maintenant hein, sur arte.fr, sur le site. Et le film sera diffusé le 30 juillet à la télé.
Merci
à vous.
Beaucoup.
Bonne journée.
Merci.